Ah bon, ça marche? La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, en Jésus, le Christ, le ressuscité. Bienvenue à vous tous ce matin ici dans ce lieu de prière. Bienvenue à tous, vous qui venez pour ce grand événement qu'est la Pâque. Bienvenue à la famille qui nous rejoint aujourd'hui pour célébrer le baptême de leur petite fille. Vous êtes ici les bienvenus dans cette maison, vous êtes ici chez vous aujourd'hui et chaque fois que vous aurez envie de retrouver la communauté et d'être chercheurs avec nous. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez par le biais d'Internet. Nous sommes ensemble dans la communion fraternelle en ce matin de Pâques. Que vous soyez empêchés par toutes sortes de difficultés pour venir ici nous rejoindre, que vous soyez à l'étranger, dans d'autres pays où vous cherchez peut-être des cultes francophones, nous sommes avec vous dans la communion fraternelle. Je salue aussi ce matin particulièrement la communauté de Nevers où ma consœur Agnès Adeline Schaeffer célèbre le culte en ce moment même. Évidemment, vous n'êtes pas en train de regarder, j'imagine, sur vos smartphones, dans le temple de Nevers, le culte de l'oratoire du Louvre, mais peut-être en différé, verrez-vous que nous avons pensé à vous. Nous sommes rassemblés ce matin avec le chœur de l'oratoire du Louvre et son chef de chœur, Alexandre Korovitch. Merci au chœur d'être avec nous ce matin. Nous sommes avec David Cassan qui va accompagner ce culte à l'orgue. Merci David d'être avec nous. Nous sommes tous rassemblés dans la communion fraternelle. Je vous invite à prendre dès maintenant le premier répond dans les psautiers français. Vous avez, j'imagine, tous les livres dans les mains. Donc le psautier français, au début, vous avez toute la liturgie avec tous les réponds du culte. Et nous chantons ensemble et nous nous levons.
Thank you.
Et nous louons Dieu avec cette prière de Sidney Carter. Je dansais le matin lorsque le monde naquit. Je dansais entourée de la lune, des étoiles, du soleil. Je descendis du ciel et dansais sur la terre et je vins au monde à Bethléem. Dansez où que vous soyez, car, dit-il, je suis le Seigneur de la danse. Je mènerai votre danse à tous, où que vous soyez, dit-il, je mènerai votre danse à tous. Je dansais pour le scribe et le pharisien, mais eux n'ont voulu ni danser ni me suivre. Je dansais pour les pécheurs, pour Jacques et pour Jean. Eux m'ont suivi et ils sont entrés dans la danse. Je dansais le jour du sabbat. Je guéris le paralytique. Les saints Jean disaient que c'était une honte. Ils m'ont fouetté, m'ont laissé nu et m'ont pendu bien haut sur une croix pour y mourir. Je dansais le vendredi quand le ciel devint ténèbres. Il est difficile de danser avec le démon sur le dos. Ils ont enseveli mon corps et ont cru que c'était fini. Mais je suis la danse et je mène toujours le ballet. Ils ont voulu me supprimer, mais j'ai rebondi plus haut encore. Car je suis la vie qui ne saurait mourir. Je vivrai en vous si vous vivez en moi. Car, dit le Seigneur, je suis le Seigneur de la danse. Ainsi soit-il. Chantons notre louange à ce Seigneur de la danse avec le psaume 92. Oh, que ces choses belles, les strophes 1, 2 et 4 dans les psautiers français. Alors, si des personnes sont debout et cherchent une place, qu'ils viennent, surtout avancez-vous maintenant. Et vous avez de la place ici, on va vous installer dans les bancs et vous serez bien installés comme ça. Ne restez pas debout, venez, venez, ne soyez pas timides. Surtout avec des petits-enfants, venez, installez-vous, vous avez de la place dans les bancs ici. Voilà. Je vous invite à écouter ce que le Seigneur nous rappelle pour notre vie, ce qu'il nous commande pour que nous puissions marcher dans ses voies. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand principe. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous nous présentons devant Dieu. Tu sais de quelle miséricorde nous avons besoin, Seigneur. Tu connais nos obscurités, nos silences, nos oublis, nos vanités. C'est à chacun comme un secret que tu les révèles. C'est à chacun comme un secret que tu les pardonnes. C'est à chacun comme un secret que tu donnes l'ordre de se relever et de marcher pour un nouveau service, pour un nouvel amour. Aussi, c'est avec confiance que nous te disons, Seigneur, fais-nous grâce. Amen. Levons-nous pour recevoir la grâce renouvelée sur nos vies. Le Seigneur nous redit sa grâce et dit à chacun de nous, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Je vous invite à vous asseoir et je vais accueillir maintenant la famille de la petite baptisée d'aujourd'hui qui se promène tranquillement là-bas. Voilà. Mathilde et Antoine, vous pouvez venir avec vos filles, bien sûr. Voilà, venez auprès de moi, autour de moi. Venez les filles, venez. Viens Célestine. Viens, viens avec moi. Oh, attention à ta petite tête. Oh non, hein, c'est pas le moment de se faire mal aujourd'hui. Hein. Non, non, non. Mathilde et Antoine, vous avez demandé le baptême pour votre fille. Avec les parrains et marraines, vous êtes ici avec nous et l'Église aujourd'hui accueille votre souhait avec joie. Nous allons maintenant confesser notre foi et je vous invite à vous lever pour partager la confession de foi. Toi, le vivant, tu es sorti du tombeau, tu t'es relevé de la mort. Ni la haine, ni la souffrance, ni le mal n'ont pu t'anéantir. Au-delà de la mort, le Père t'a rendu et t'a tendu la main et la joie de Pâques rayonne sur ton visage. Nous croyons en toi, Seigneur ressuscité. Toi, notre frère en humanité, apprends-nous à vivre en ressuscité dès maintenant, avec toi, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Mathilde et Antoine, votre fille va être baptisée au nom du Père qui lui donne le souffle de vie. Ah oui. Au nom du Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité, et qui l'appellera à son service. Elle va être baptisée au nom du Saint-Esprit qui fera naître en elle, c'est notre espérance commune, la foi, l'espérance et l'amour. Il y a de l'eau ici dans ce baptistère et c'est de l'eau tout à fait ordinaire, mais avec la parole de Dieu, cette eau devient l'eau du sacrement du baptême, eau d'une nouvelle naissance avec Dieu. Chaque jour, notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble, nous vivons de son amour. Je vais maintenant vous inviter à pencher votre fille sur le baptistère pour qu'on puisse la baptiser. Voilà. Pardon, monsieur. Quel prénom avez-vous choisi pour votre fille ?
Louison.
Louison. Louison, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Redressez-la. Voilà. Quelle chevelure! Extraordinaire! Louison, pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je vais vous inviter maintenant à partager avec nous les promesses que vous avez préparées pour votre petite fille. Tu viens, Louison ? Ah non, pardon, excusez-moi. C'est vrai ? Je peux ? Ah, ça c'est bien. Alors, le micro est là. Attendez, je vais vous donner ça tout de suite.
Joyeuse Louison, je suis heureuse que tu sois accueillie aujourd'hui dans ces murs. Que ton sourire puisse illuminer l'assemblée et recevoir sa chaleur en retour. Que ta joie soit partagée avec le plus grand nombre. Une nouvelle petite fille dans nos vies, une nouvelle sœur pour Célestine et Margot. Je souhaite que tu gardes une belle complicité avec tes sœurs. Que vos rires d'enfants ne cessent jamais et se transforment en autant de moments passés à feuilleter vos albums de baptême et à disserter sur ce qu'ils représentent. Je souhaite que ta belle lumière ne te quitte jamais et qu'elle te permette d'affronter le monde et ses difficultés. Tu es déjà si entourée et si aimée, mais laisse-moi te confier à une autre personne. Une personne que tu pourras convoquer à chaque instant, que ce soit pour partager tes joies ou lui confier tes peines. Ce Dieu qui t'a donné ta grâce et qui nous réunit aujourd'hui dans sa maison pour célébrer la vie. Je souhaite que sa parole te guide et qu'il t'apporte réconfort tout au long du chemin.
Tu entends tout ça ? Oui. Écoute, papa.
Louison, mon petit bébé. Tout ceci peut te paraître un peu démesuré, toi pour qui, je sais, peu de choses suffisent. Du lait, des câlins, un bain à température, des tours de poussette, le sourire de ta maman, les rondes de tes sœurs, les lunettes brillantes de papa, un doudou à masticoter. C'est qu'aujourd'hui, ces grandes voûtes donnent la mesure de la communauté protestante qui t'accueille et te fait une place. Je l'en remercie. Pour maman, c'est évident, et moi aussi, je me sens un peu chez moi. Je partage le plaisir de croire d'abord, ce lâcher prise qui nous rend plus humains. Et puis je partage la croyance en l'amour qui donne de la dimension à chacun et à chaque pierre, chaque rameau, chaque morceau de mousse et chaque coccinelle. Ici à l'oratoire, et je suis sûr que tu le ressens, l'amour entre en résonance. Alors c'est ici que je te dis, la vie est vaste, immense, excitante, rebelle et sinueuse. Elle est souvent là où on ne l'attend pas, et moi je t'accompagnerai de toutes mes forces, aussi loin que tu le voudras, toujours. On sera compagnons de route, toi et moi, d'accord ? Je te donnerai tout ce que je suis, tout ce que je sais pour que tu puisses construire ta confiance et arpenter la vie avec joie. D'autres seront là aussi. Regarde s'ils sont venus aujourd'hui. Et avec eux, tu seras épaulé. N'hésite pas à t'agripper à ton parrain et à ta marraine. Ils sauront te guider. Ce sont des liens précieux. Louison, tes cheveux pétillants dès ta naissance nous ont très vite signifié ton intention d'occuper toute ta place singulière. Ça tombe bien, on t'attendait très fort. Maman, Célestine, Margot et moi sommes fiers de t'accompagner dans ton baptême. Mon petit bébé, à toi de jouer.
Et je vous laisse les parrains et marraines venir embrasser ce bébé magnifique pour ce baptême. Voilà. Ça va, Margot ? Alors, j'avais baptisé Célestine en d'autres temps. Voilà, tous ces enfants qui sont nés dans des pays différents à travers le monde et qui sont aujourd'hui ici avec nous, dans ce lieu. Alors, je vais t'emmener encore une fois. Mais oui, ah oui, ah oui, oui, oui. Alors, Louison, regarde, regarde, voilà ta nouvelle famille. Chers amis, voici Louison. Vous êtes sa famille spirituelle. Vous lui accorderez ainsi qu'à sa famille le soutien de votre prière. Si un jour elle venait à se séparer de l'Église du Christ, vous affirmerez qu'elle peut toujours y retrouver sa place. Ce sera ainsi le signe pour elle de l'amour inconditionnel de Dieu qui l'accompagne toute sa vie. Voilà Louison, tu as vu, tu as une grande, grande, grande famille qui est là aujourd'hui, mais il y a tous ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui et qui font aussi partie de notre communauté. Mais oui, regarde, regarde, alors, il y en a aussi par là. Regarde. Voilà, Louison. Et il y a même des bébés dans la famille là-bas, des tout petits. Voilà. Chers amis, je vous invite même, alors peut-être que David va être d'accord avec ça, j'imagine que oui, hein, pour chanter le 204 quand même, parce qu'il n'était pas, il n'était pas sûr qu'on puisse le faire, mais on va le chanter, parce que je pense que là, c'est, ça s'impose, voilà. Voilà, merci, merci beaucoup. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Nous lirons ce matin dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, les versets 1 à 15. Après le sabbat, alors que le premier jour de la semaine allait commencer, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car l'ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'asseoir dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange dit aux femmes, « Vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le ressuscité. Il n'est pas ici. En effet, il s'est réveillé, comme il l'avait dit. Venez, regardez le lieu où il gisait et allez dire à ses disciples qu'il s'est réveillé d'entre les morts. Il vous précède en Galilée, et c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent vite du tombeau, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Mais Jésus vint au-devant d'elles et leur dit, « Bonjour !» Elles s'approchèrent et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et racontèrent au grand prêtre tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en leur ordonnant « Dites, les disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous étions endormis. Et si le gouverneur l'apprend, nous userons de persuasion envers lui et nous ferons en sorte que vous ne soyez pas inquiétés. » Ils prirent l'argent et agirent selon les instructions qui leur avaient été données. Et cette histoire s'est propagée parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Je vous invite à chanter ensemble dans le Louange et Prière, les petits livres bleus, au numéro 144, les strophes 1, 2 et 3. Et nous nous levons.
Thank you. Le réformateur Martin Luther a écrit « Là où les œuvres et l'amour ne jaillissent pas, la foi n'est pas vraie. L'Évangile n'a pas encore de prise et le Christ n'est pas encore connu. Voilà maintenant, plonge-toi dans les livres du Nouveau Testament afin que tu saches les lire de cette manière-là. Seigneur, permets que nous sachions lire les témoignages de l'Évangile avec ce même cœur. L'évangile de Matthieu s'achève ainsi. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà l'institution des baptêmes que nous célébrons dans nos églises. Voici l'aube d'une nouvelle religion, l'aube de l'Église de Jésus le Christ. Mais que va devenir cette Église ? Une église de gardiens, comme ces gardes devant le tombeau, ou une église de témoins, comme ces femmes et ces hommes qui marchent sur les routes. Les 11 se retrouvent sur la montagne de la Transfiguration, celle sur laquelle Jésus était apparu entre Moïse et Élie à Pierre, Jacques et Jean. Jésus avait alors promis « Quelques-uns de ceux qui sont ici » ne mourront pas avant qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Nous y sommes. Le Fils de l'homme est là et il donne ses directives à ceux qui prendront sa suite. Passage de témoin en forme d'encouragement. Allez, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais de quelle manière ? Le récit de la résurrection de Jésus dans l'Église, dans l'Évangile de Matthieu construit le ressuscité sur le modèle de l'enlèvement du prophète Élie au ciel. Reprenant les motifs de la transfiguration avec les vêtements éclatants de lumière et d'un blanc comme l'éclair, l'Évangile de Matthieu fait de Jésus un de ces êtres de lumière de la religion masdéenne que la communauté de Matthieu connaît si bien dans la région d'Antioche où elle s'est réfugiée après la destruction du temple de Jérusalem. Certains membres de cette communauté qui devient église en se réunissant autour de l'anamnèse du mémorial qui se rapporte à la vie, à la mort et à la résurrection de Jésus sont certainement issus de cette culture masdéenne de cette culture où la lumière est si importante. Alors que Jésus se manifeste ainsi dans les récits, avec le visage resplendissant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière, ou encore que l'ange de Dieu est l'aspect de l'éclair et le vêtement blanc comme la neige, est sans doute le signe de l'acculturation nécessaire de l'Évangile pour que le témoignage puisse être reçu. Dès le début, il a fallu raconter les choses en tenant compte de ceux qui allaient entendre. Car il s'agit bien d'un défi extraordinaire que de se réunir autour de la figure emblématique d'un mort qui est dit ressuscité sans que personne ne puisse dire comment. Comme autour d'un puits où se rencontrent les voyageurs, les premiers disciples de cette église improbable se rassemblent autour d'un trou, autour d'un creux, autour d'un sépulcre vide. Et pour les Juifs qui ont rejoint la communauté, venant de Jérusalem mise à sac, ou déjà installés sur place, au sud-est de l'ancienne terre d'exil dans la grande Babylone, la figure d'Élie hante le récit, comme le spectre de l'accomplissement des Écritures, comme un repère dans cette nouvelle religiosité où le retrait du Fils révèle la relation d'amour entre les fils et leurs pères, entre une génération et toutes celles qui ont précédé et qui ont annoncé la bonne nouvelle du salut. Après la transfiguration, les disciples avaient demandé à Jésus « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit d'abord venir ?» Jésus leur avait alors répondu « Il est vrai qu'Élie vient tout rétablir, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, ils vont faire souffrir le Fils de l'homme. » Les disciples ne comprirent qu'après coup le sens des paroles de Jésus qui parlait d'Élie et qui parlait du Fils de l'homme. Les religieux avaient fait mourir leur maître sur une croix à coups de corruption et de mensonges pour garder leur pouvoir, leur situation, leur assise. Car à bien y regarder, l'évangile de Matthieu se termine sur une fake news, fabriquée par une institution religieuse qui ne veut pas que le gouverneur romain sache que Jésus leur a échappé, qu'il n'est pas ici, que le tombeau est vide. Achetant les gardes pour qu'ils disent la vérité officielle, même si cette vérité-là ne les honore pas, puisqu'ils sont censés s'être endormis au lieu de faire leur office. Mais peu importe, si le gouverneur leur fait des ennuis, ils couvriront leur mensonge par un autre mensonge pour le persuader de les laisser tranquilles. Décidément, dans l'évangile de Matthieu, tout se paie, mais de diverses manières. Des 30 deniers versés à Judas pour trahir son ami, à cette forte somme d'argent pour acheter une vérité présentable. Depuis le début de l'évangile, on se croirait assis au bureau des taxes tenu par Matthieu, devenu disciple. Combien pour un péché? Combien pour un parfum précieux? Combien pour la vie d'un homme? Combien pour la vérité? L'évangile de Matthieu continue ses calculs et montre comment ceux qui comptent règnent dans le monde et comment ils sont prêts à falsifier les comptes pour que leur pouvoir subsiste. Quand Jésus avait répondu aux disciples sur la question du retour d'Élie, il se souvenait du prophète Malachie, le messager. Malachie veut dire messager. Il avait proclamé « Je vous envoie Élie, le prophète, avant que n'arrive le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères, de peur que je ne vienne mettre à mal le pays en le frappant d'anathème. Mais les grands prêtres et les anciens se moquaient bien de leur relation avec leur père Moïse et Élie. Ils se moquaient bien de leur relation avec la loi et les prophètes. Et ils ne craignaient pas le Fils de l'homme, trop occupés qu'ils étaient à fabriquer ce qu'il faut donner à croire pour soumettre le peuple et garder le pouvoir. Les grands prêtres de l'évangile de Matthieu ressemblent fort au grand inquisiteur du poème d'Ivan dans Les Frères Karamazov de Dostoïevski. Ce récit qui est campé en pleine inquisition en Espagne. De tout temps, la vérité du Christ peut se falsifier. Comme le tentateur du désert qui voulait que Jésus change les pierres en pain, les grands prêtres semblent reprocher cyniquement à Jésus-Christ la même chose. Tu veux aller vers les hommes et tu vas vers eux les mains vides, avec seulement la promesse d'une liberté qu'ils sont incapables de comprendre dans leur simplicité et leur indignité native, dont ils ont peur par surcroît. Car il n'y a et il n'y a jamais eu d'état plus intolérable aux hommes et à la société que la liberté. Vois-tu ces pierres dans le désert aride et brûlant ? Change-les en pain et l'humanité accourra vers toi, tel un troupeau affamé. Elle te sera reconnaissante et soumise, mais tremblera sans cesse de te voir retirée des mains et d'être privée de pain. Mais tu n'as pas voulu priver l'homme de la liberté et tu as rejeté l'offre en te disant qu'il n'y aurait plus de vraie liberté là où l'obéissance s'achèterait par le pain. Ne savais-tu pas que l'esprit de la terre se dresserait contre toi ? Demande le grand inquisiteur à Jésus de retour sur terre. En effet, pour les grands prêtres, tout s'achète, surtout la liberté. Et leurs intrigues leur permettent de construire une institution contre l'incarnation, quitte à instaurer le mensonge en vérité officielle. Ils ont gardé le tombeau et le corps n'y est plus. Mais ce n'est pas le corps d'un homme mort qu'il fallait garder, mais la trace du corps vivant. Car déjà, Jésus est devenu la trace de lui-même, et il est déjà le récit que l'on fait de lui sur les lignes de fuite que décrit le nouvel espace du croire qu'il a créé. En nous racontant la résurrection de Jésus, Matthieu nous parle de l'Église du ressuscité. Il nous donne à sentir presque physiquement le nouvel espace que cette Église en diaspora oblige à penser. L'Évangile de Matthieu trace des voies sur lesquelles des femmes et des hommes marchent en tous sens, créant des relations nouvelles entre présent, passé et avenir. Les femmes arrivent au tombeau et le temps est déjà différent. Il n'est plus le même. Nous sommes après le sabbat, au début du premier jour. Mais le jour ne commence plus avec la première étoile dans la nuit comme le temps des Hébreux, mais avec une aube et la lumière du soleil. Les femmes qui sont venues de Jérusalem sont renvoyées vers les disciples pour annoncer que le Christ les précède en Galilée. Et pendant ce temps, le Christ lui-même vient à leur rencontre. Et comme lors de la transfiguration, cette fois, ce sont les femmes qui se prosternent aux pieds du Fils de l'homme. Et lui qui est ici devant elles, il les envoie pour dire aux disciples qu'il sera là-bas, en Galilée, là où on l'a choisi, les rois d'Israël, là où tout a commencé. Dans l'intervalle, les gardes sont comme morts et les grands prêtres siègent et organisent l'institution autour d'une version dogmatique et frauduleuse de la vérité, pour que rien ne se sache qui puisse leur donner tort. La censure s'organise autour d'un sommeil complaisant. Pour que Jésus soit bien mort, une fois pour toutes. Et si l'on peut accuser les disciples d'avoir volé le corps, alors c'est encore mieux. C'est faire, si j'ose dire, d'une pierre deux coups. Alors que Jésus institue avec autorité une église vigilante en mouvement qui n'a plus de lieu, qui n'a plus comme maître qu'un absent qui libère et laisse du jeu pour inventer demain, l'image de l'institution figée dans ses dogmes apparaît, dangereusement monolithique, avec une pierre devant sa porte qu'aucun ange, quand bien même il viendrait d'auprès de Dieu, n'aurait le droit de rouler. Même un tremblement de terre ne les fera pas bouger. Mais Jésus dit « Allez !» Et déjà son corps mort laisse la place à l'autorité de sa parole, à la liberté de sa parole. Et déjà les disciples, d'une nouvelle foi, baptisent celles et ceux qui les rejoignent, comme nous avons baptisé ce matin Louison. Quelle est-elle l'église où Louison est entrée ce matin ? L'église des gardes du corps qui deviennent les gardiens du temple, ou bien l'église de la résurrection qui envoie chacun vers sa liberté. Jésus est ressuscité et c'est pour nous l'occasion à la fois d'une crainte et d'une grande joie. Une crainte d'abord, parce que nous pouvons être tentés à tout moment de faire du sépulcre, notre temple du Seigneur, et de faire de nos églises des conservatoires, d'une mort devant laquelle il faudrait s'agenouiller et demander pardon. Une grande joie ensuite, comme la joie profonde des béatitudes, parce que nous sommes envoyés vers la vie avec ce « aller », vers nos contemporains, vers ceux qui, comme nous, ont soif de vie et de nouveauté. Jésus est ressuscité et sans attendre qu'Élie ne revienne, il nous a appris comment être fidèles à la loi et aux prophètes et comment être fils et fille de Dieu dans une relation pacifiée et confiante, une foi existentielle en somme. Une écriture incarnée, vécue. L'église de la résurrection, c'est celle de la parole vécue. Celle qui peut vivre librement parce qu'elle accepte l'autorité d'un maître qui est en fait un ami. Et l'autorité de Jésus, c'est son existence même. C'est ce qu'il a enseigné par sa vie même. C'est ce qu'il a donné à comprendre par sa mort aussi. Il faut mourir pour être éternel. C'est le seul prix de notre vie, le seul que la grâce rachète totalement. Il nous faut maintenant vivre comme des ressuscités, car notre mort est sauvée par l'éternité. Entre crainte et joie, nous sommes envoyés dans nos existences pour annoncer cette vie éternelle au cœur même de nos vies mortelles. Alors aujourd'hui, mes sœurs, mes frères, c'est l'aube du premier jour de la vie éternelle. Allez, l'Église du ressuscité, c'est vous. Merci beaucoup au cœur. Je vous invite maintenant à chanter le cantique 149, les strophes 1, 2 et 3 dans le Louange et Prière, dans le petit livre bleu. 149. Voilà, c'est maintenant le moment de quelques annonces. Je vous invite à vous asseoir. Et c'est Aurore qui va partager avec nous les annonces, la présidente du Conseil presbytéral.
Merci, Béatrice. Merci, merci en un week-end si ensoleillé d'être restée à Paris ou venue à Paris nous rejoindre pour ce culte de Pâques. Merci également à ceux qui sont en ligne et en province et qui veulent être avec nous. Merci également à Agnès, qui est à Nevers, tu l'as dit, hein, pour pouvoir aussi fêter Pâques avec nos amis de Nevers et Sancerre, puisque c'est le même consistoire, je crois.
Oui, c'est Cône, Sancerre et voilà. Nevers.
Oui. Merci pour ta prédication, qui remet bien dans le contexte d'une notion d'institution. Ça m'a
en
rappelé
fait,
une...
Fake news, ce n'est pas du tout nouveau, tout le monde le savait, mais enfin, c'est bien de rappeler que c'est une très vieille histoire.
Oui. Et puis ton mari me corrigera peut-être, mais ça m'a rappelé une citation de Nietzsche sur les églises. Sur les églises, je ne me souviens plus exactement de la citation, mais c'est un édifice de pierre qui se met sur le tombeau et qui fait tout pour que l'église ne ressuscite pas et que le Christ ne ressuscite pas. Qui, de mémoire,
il était très sévère.
Il était très sévère, mais c'est vrai que c'est bon de garder que l'église ressuscitée, c'est d'abord nous.
C'est d'abord ça.
C'est chacun d'entre nous, c'est pas l'institution, c'est pas ceux qui veulent garder leurs habitudes, qui veulent pas de nouveau, qui veulent même être méchants si besoin était. C'est vraiment nous. Et aujourd'hui, il nous faut être joyeux comme tous les jours pour servir cette Église. Alors, quelques annonces. Premièrement, à ceux qui ne l'ont pas eu, ce qui signifie qu'ils ne viennent pas, ils sont pas encore venus depuis le 1er janvier, ou qu'ils ne sont pas donateurs, donc ils n'ont pas reçu par la poste, je vous en prie, prenez la feuille rose de l'Oratoire du Louvre, vous aurez toutes les activités. Également, vous pouvez vous mettre sur Internet, vous pouvez vous inscrire à notre lettre de nouvelles qui paraît tous les vendredis soirs, ce qui peut-être vous donnera envie de venir nous voir plus souvent. Et vraiment, vous êtes tous les bienvenus. Mardi, une annonce importante, vous repassez toute la journée avec Béatrice. Puisque nous faisons maintenant le mardi en semaine, à l'heure du déjeuner, un culte d'intercession avec Seine, suivi d'un déjeuner avec Béatrice Cléromazir, et également d'un partage biblique.
Voilà, et nous parlerons du vin et de l'ivresse. Venez, ça risque d'être joyeux.
C'est l'ivresse ou l'abstinence, hein.
Alors c'est une fois par mois, hein, parce que On ne peut pas vivre à ce rythme-là toutes les semaines non plus.
Voilà. Mercredi, le groupe des jeunes se réunit. Alors les jeunes, c'est de 18 à 35 ans. C'est les jeunes étudiants, c'est les étudiants et jeunes actifs. Et alors, ils sont un peu à contre-courant aussi, parce que mercredi, c'est le sacrifice.
Oui, alors voilà, tant pis.
Donc mercredi, ils parleront du sacrifice, vous pouvez les rejoindre. Jeudi, à midi, la pause spirituelle avec Agnès Adeline Schaeffer. Également, à partir de mardi, nous avons le président, je te demande de te lever, Jean-Jacques, si vous voulez en discuter plus longuement. Nous avons avec nous le président du GPA, le GPA est le groupe des protestants des artistes.
Voilà, c'est dans ce sens-là.
Voilà, donc à partir de mardi après-midi, dans la grande sacristie, une exposition. Je te laisse le micro, tu peux nous en dire deux mots.
Merci beaucoup. Oui, c'est une semaine artistique pour justement montrer le témoignage de nous tous chrétiens au travers de l'art, de diverses formes d'art. Il y aura une exposition de peinture, sculpture, vitraux du mardi au dimanche, du mardi 11 au dimanche 16, suivie de la représentation d'une pièce de théâtre qui s'appelle 1768 Résister, qui parle de la libération des prisonnières de la tour de Constance en 1768 grâce au prince de Beauvau. C'est une pièce que j'ai écrite, que nous jouons en ce moment en tournée. Et puis le dimanche après-midi, nous aurons l'exécution de la Passion selon saint Jean de Jean-Sébastien Bach ici à 16h30, ici dans ce temple. Voilà, c'est donc diverses formes artistiques qui seront portées en témoignage de notre foi dans ce temple.
Merci.
Merci Jean-Jacques.
Pardon, oui, vous êtes tous invités au vernissage de cette exposition mardi soir à 17h30.
Après l'ivresse et le vin.
Voilà, donc mardi, vous continuez la journée à la grande sacristie. C'est le moment de l'offrande. Juste avant, je voulais vous annoncer un nouveau miracle. Nous avons commencé l'année dernière un projet de rénovation de nos vitraux. Nous en avons rénové 4. D'ailleurs, si vous vous mettez de ce côté-là, c'est assez flagrant de voir les éléments qui ont été ou pas restaurés. Déjà, 103 points de casse sur seulement 4 des vitraux, 4 baies vitrées, 103 points de casse. Donc, c'est pour vous donner une idée de... des fuites et du travail. Si le miracle s'accomplit, j'attends la dernière confirmation d'un mécène aujourd'hui ou demain, nous devrions avoir dans 10 jours la nouvelle nacelle, donc c'est quelque chose qui fait 80 mètres de haut quand ça se déploie, pour nous permettre de continuer le projet et de le terminer d'ici la fin du mois de mai. Voilà. Donc ça, c'est possible grâce à des mécènes, grâce à des donateurs qui nous ont soutenus sur ces projets de vitraux. Et vraiment, je les remercie très chaleureusement. Et je remercie également très chaleureusement tous ceux qui nous soutiennent, l'Église elle-même. Pour faire fonctionner cette Église, c'est 1 000 euros par jour, à peu près. 1 000 euros par jour, donc c'est colossal. Et j'allais dire avant inflation. Donc vraiment... si vous aimez ce que nous faisons, si vous avez envie de cette Église ressuscitée qui vit aujourd'hui, qui invite le groupe protestant des artistes, qui ouvre ses portes à tous, qui vous permet même peut-être à la sortie d'avoir une petite surprise, notamment pour les enfants, je vous remercie d'avance d'avoir un don joyeux également en ligne. Et le dernier des miracles, vous le connaissez, c'est le miracle du fisc. Hein, c'est-à-dire que si vous nous donnez un chèque où vous donnez en ligne, vous pouvez donner 3 fois plus, puisque le fisc vous en rembourse entre 66% et 75%. Voilà. Ouais. Un grand merci. J'ai un conseiller qui me rappelle pour les nouveaux que nous acceptons aussi la carte bleue, puisque nous avons un panier digital. Merci à tous. Bon dimanche et vraiment joyeuse, joyeuse, joyeuse Pâques. Merci à tous.
Merci. Voilà, merci aux personnes qui vont donner la scène de me rejoindre. Peut-être vous répartir des deux côtés, s'il vous plaît. Merci. Nous louons Dieu. Seigneur, notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment, quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom et nous te chantons. Je vous invite à chanter. Soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 et pendant le repas, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude pour le pardon des péchés ». Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Père, invité à ta sainte scène, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus, le Christ, de sa mort, de sa résurrection. Et dans la confiance, nous te présentons notre monde et nous te prions pour tous ceux que tu nous mets en mémoire. Éternel, nous voulons te prier pour que la paix revienne là où la guerre sévit, pour que la crainte de toutes les populations qui sont menacées puisse être atténuée. Permet que la paix revienne. Nous te demandons, Éternel, d'être nous-mêmes des artisans de paix. Éternel, nous te prions pour la petite Louison qui a reçu son baptême aujourd'hui, que nous sachions lui présenter, lui préparer un monde paisible. Qu'elle arrive sur cette terre, avec l'assurance qu'elle trouvera avec elle des adultes responsables qui feront attention à son avenir. Nous te remettons, Seigneur, tous ceux qui, en ce matin de Pâques, sont en deuil et attendent que ta résurrection se fasse dans leur cœur pour la vie de ceux qu'ils ont perdus. Te remettons, Seigneur, ce matin, toutes celles et ceux pour qui ta résurrection doit venir dans leur vie comme un salut qui change totalement leur existence. Nous pensons à tous les exilés, à tous ceux qui attendent d'avoir une existence légale quelque part sur la terre où on les accueille. Nous attendons, Seigneur, de toi que tu nous donnes le courage de faire ce que nous devons pour que les hommes et les femmes et les enfants de notre société vivent dans ton amour. Insuffle-nous ton éternité afin que nous puissions avec audace poser des gestes d'éternité dans notre monde. Et ensemble, nous te disons, comme des enfants qui ont confiance en leurs parents, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous partageons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. Alors à qui je précise que tout le monde est invité à la Sainte Cène et qu'il n'y a aucun interdit qui pourrait empêcher que vous y participiez. Vous êtes tous invités au repas du Seigneur.
Éternel, nous te remercions pour ce repas. Tu nous as rendus proches de toi. Élargis l'espace de nos vies, donne-nous d'accueillir, de recueillir les êtres et les événements qui surviennent sur nos chemins. Nous ne pouvons pas faire cela sans toi. Accorde-nous, Seigneur, ta force et ton amour. Amen. Frères et sœurs, en ce matin de Pâques, allez porter la résurrection là où vous vivez, là où vous rencontrez les autres, quelle que soit leur situation, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur situation de vie, leurs épreuves ou leur bonheur, vous êtes avec eux au nom du Christ. Allez leur dire que la résurrection est toujours possible dans toute vie. Recevez la bénédiction de la part de Dieu notre Père. Le Seigneur de toute grâce vous bénit et vous garde dans la résurrection du Christ. Amen.